on est au chapitre 12. Hein. Si vous voulez, on va les lire, ces chapitres 12, mais versets 1 à 6. Hein. Même à 7. Voilà ce qu'il dit, Paul. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus et anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a des diversités de dons, mais le même Esprit. Il y a des diversités de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations ou de manifestations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et il énonce les dons. Je vous l'ai dit la semaine dernière, les dons, on les trouve dans quatre versets. Nous, on est dans Corinthiens, c'est pas la totalité des dons. Hein. On en trouve dans Romains, que c'est les dons qu'on a vus la semaine dernière, c'est les dons des grâces. On en trouve dans Éphésiens, chapitre 4, hein, versets 11 et 12. Et on en trouve aussi dans 1 Pierre 4, 11. Mais ici, qu'est-ce que c'est qu'il nous montre ici? C'est la totalité des dons. J'aimerais vous le lire, hein, la totalité des dons, à travers ces trois passages, ces quatre passages, et ensuite on va les partager pour voir, comme on a dit la semaine dernière, il y a les dons des grâces, il y a les dons des manifestations, et il y a les dons des services. Donc, je vais vous les lire tous, hein, afin que nous puissions, et ensuite on va faire le partage. Alors, voilà les dons qu'on trouve. Si on continue à lire Corinthiens 12, on trouve la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diverse sorte de langues, l'interprétation des langues, premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite les dons de miracles, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue. Tout ça, comme je vous ai dit, on le trouve dans 1 Corinthiens 12, hein, versets 8 à 10 et 28. Dans Romains, on ne va pas les lire, je vous dis tous les dons, hein. Il y a des dons qui se répètent, mais il y en a qu'on ne trouve pas dans les autres. Dans Romains 12, versets 6 à 8, on trouve la prophétie, les diaconats, l'enseignement, l'exhortation, la capacité de donner, la présidence et l'exercice de la miséricorde. Ensuite, il y a dans Éphésiens 4, 11 à 12, on trouve apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ou bien des pasteurs, docteurs. Et dans Pierre, 1 Pierre 4, 11, voilà, Pierre, il nous dit, si quelqu'un parle, hein, si quelqu'un parle, c'est-à-dire qu'il présente l'évangile, et ensuite il dit, si quelqu'un sert. Donc ici, il y a le ministère de grâce, la grâce, les dons de grâce et les dons de service. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous apprend toutes ces choses-là? Alors, tous, ils les ont partagés en différentes, par exemple, il y a les dons des personnes. C'est-à-dire que c'est des dons, c'est des hommes que Dieu, il a fait des dons à l'Église. Parce que Jésus, il a fondé l'Église, il ne l'a pas seulement fondée sur son sacrifice, mais aussi il a fait des dons pour des hommes. Pourquoi cela? Pour que l'Église elle puisse fonctionner. Alors, dans les dons de personnes, il y a les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils ont fondé l'Église. Il y a les prophètes. Et ils ont révélé la vérité à l'Église. Il y a les évangélistes qui annoncent l'Évangile. Les évangélistes annoncent l'Évangile. Les pasteurs, ils sont là pour encadrer l'Église. Et ensuite, il y a les docteurs. C'est pour enseigner l'Église. Donc, vous voyez, ça, c'est les dons des personnes que Dieu a fait à l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ensuite, il y a les dons des paroles. Les dons des paroles. Il y a la parole de sagesse, c'est-à-dire comment appliquer la parole, comment appliquer concrètement la parole de Dieu, hein, les individuels dans l'Église. Parole de connaissance, hein, dans Romains 12, hein, c'est l'enseignement d'une connaissance de la parole. C'est celui auquel Dieu il a donné la connaissance. Mais encore une fois, c'est un don de grâce, mais pour avoir ce don de connaissance, il faut s'appliquer, il faut la méditer, il faut se mettre entièrement à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, il accorde de la connaissance, mais encore pour l'Église, pour l'édification, pour l'édification. Ensuite, il y a les dons d'enseignement. C'est pas à tous, c'est d'enseigner la parole. C'est un don. C'est-à-dire expliquer la parole. Une fois qu'on l'a lu, qu'on a pris connaissance de la parole, Dieu, il accorde ses dons pour pouvoir l'enseigner. Dans notre église, il y a des gens qui connaissent la parole, mais si vous le dites enseigner cela, ils n'arrivent pas. Pourquoi? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils ne se sont jamais mis. Mais encore une fois, c'est un don de parole. Et ensuite, il y a, on l'a vu la semaine dernière, c'est l'exhortation, le don de la parole, c'est-à-dire l'exhortation, l'encouragement à imiter la parole, l'encouragement à se relever lorsqu'on tombe, l'encouragement, la consolation, et même, on peut exhorter quelqu'un, un frère, une sœur, on peut l'exhorter en le réprenant. Parce que des fois, on se dit, ah, celui-là, il est venu, il m'a dit ça et ça et ça. Pourquoi il m'a dit ça? C'est une exhortation après qu'on puisse rentrer dedans. Ce n'est pas une réprimande, mais c'est une exhortation pour pouvoir revenir à l'état où le Seigneur nous a mis. Ensuite, il y a, dans tous ces dons, il y a les dons de la foi. Attention de ne pas confondre avec le don du salut. Pour être sauvé, il faut la foi, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais le don de la foi, c'est autre chose. Comme il a dit Jésus, si seulement vous auriez la foi, vous direz à cette montagne. Ça, c'est un don. C'est un don qu'ils avaient les apôtres. Voilà, Jésus aussi, en tant que Dieu, il avait le don de la foi, c'est-à-dire une confiance totale dans ce que Dieu souhaite faire dans une situation donnée. Hein? C'est lui qui a ce don de la foi, il ne s'arrête devant rien. C'est un peu l'exemple, hein, lorsqu'on a vu Roland et compagnie avec Bob, Samy et tout ça, lorsqu'on cherchait un local plus grand. Hein, Roland, il nous a tellement raconté ça que Bob, il disait, non, on ne pourrait jamais l'avoir. Et Roland, il disait, allons-y. Voilà, ça c'est quelque chose que le Seigneur donne pour exhorter, pour encourager, pour avancer. Il le raconte tellement des fois, Roland, que des fois on se dit, et des fois on se demande, mais comment on a pu arriver à... Mais parce qu'il y avait des gens qui avaient la voix de Dieu, on a prié Dieu, il a dit qu'il nous l'aurait donné, alors allons-y, marchons, c'est ça le don de la foi. Ne pas confondre avec la foi du salut, ça c'est autre chose, hein. Ensuite, il y a le discernement des esprits, le don de direction. On est en train de voir le don de direction. Pourquoi c'est marqué discernement des esprits? Parce qu'il y a ceux qui ont ce don-là, ils peuvent conduire les autres, les frères et sœurs. Hein, comme il a dit au verset 3, dans le chapitre 12, il a dit, personne, s'il a l'esprit de Dieu, il ne dira Jésus est anathème. Celui qui dira Jésus est Seigneur, c'est seulement celui qui a l'Esprit de Dieu. Paul, vous en souvenez, lorsqu'il était en train de prêcher, et il y avait quelqu'un qui, alors il l'a regardé bien, et il l'a regardé, il a dit, Esprit maudit, sort de cet homme-là, parce qu'il voulait intervenir. Paul, il avait ce discernement. Est-ce qu'aujourd'hui on a ce discernement des esprits? Hein, et ça, il faut. Des fois, on parle des personnes qui ont cet esprit qui nie. D'ailleurs, Jean il nous dit que qui c'est qui est l'Antichrist, c'est celui qui nie la naissance de Jésus-Christ. Et ceux qui ont ce don de direction, de conduire, ils ont tout de suite ce discernement. Mais encore une fois, c'est une grâce de Dieu, hein. Un autre don de direction, c'est le don de gouverner. Pas de gouverner, mais conduire un groupe selon Dieu. Hein? C'est comme on dit dans un bateau, il y a le gouvernail. Hein? Celui qui est au gouvernail, il donne la direction. Mais ces dons de direction, il y en a qui l'ont, qui montrent la direction qu'il faut suivre. En connaissant les plans de Dieu, il dit, avançons, faisons cela. Mais il y a des difficultés. Non, suivez-moi, suivez-moi. Voilà le. Et ensuite, il y a le don de présider. Bon, nous, on fait la présidence, mais ce don de présider, c'est, ça signifie gérer, administrer, organiser un groupe, hein, ou une réunion selon Dieu. Parce qu'il faut le faire, ça aussi. Il faut avoir le don de faire ces choses-là, d'administrer, de gérer. Des fois, hein, vous voyez, Samy, il a ce don-là. Parce que il administre, il gère toute cette comptabilité. Je ne sais pas si quelqu'un de nous il pourrait le faire. Bien sûr, il pourrait le faire parce qu'il y a des comptables. Hein. Mais en plus, il y a le travail, c'est ça aussi. Et alors, les choses, ils arrivent à les gérer. Et ça, c'est les dons de direction. La foi, le discernement des esprits, gouverner et présider. Ensuite, il y a, encore une fois, on a lu d'abord tous les dons, hein, et on est en train de regarder un partage de ces dons, hein. Il y a les dons miraculeux. Il y a les guérisons. Ça veut dire quoi? C'est quoi comme don, ça? C'est accomplir des guérisons. Il y a aussi le don des miracles. Accomplir un miracle. Ces deux dons-là, guérison et miracle, ça c'était des dons qui étaient juste accordés pendant la période des actes, c'est-à-dire pendant la période où les apôtres étaient là. Pourquoi il y avait ce don de miracle, miraculeux, d'accomplir des miracles? Pour dire ce que nous vous prêchons, c'est la vérité. Et alors, il accomplissait les miracles et les gens, ils voyaient. Mais ces deux dons-là, ils sont terminés. Parce que je ne sais pas si vous en souvenez, Paul, est-ce qu'il avait le don de miracle? Oui, il l'avait. Mais si vous en souvenez bien, à un certain moment, il dit « J'ai laissé Timothée malade ». Il ne l'a pas guéri. Pourquoi il ne l'a pas guéri? Parce que les dons, c'était terminé. Parce que l'Église, elle était déjà installée. Il ne fallait plus rentrer dans l'Église à cause de ce qu'on a vu, mais à cause de notre foi. Vous en souvenez, lorsque Jésus, il a accompli la multiplication des pains. Il en avait 5000. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un garçon qui avait des pains et des poissons. Le Seigneur, il les a multipliés. Et il y a plus de 5000 personnes, ils en ont mangé. Les jours après, des gens, ils suivaient Jésus. Et alors, Jésus, il leur dit à tous ces gens, il leur dit, vous êtes là parce que hier, je vous ai donné à manger. Mais ce que moi, je désire vous donner, c'est autre chose que le pain et les poissons. Je désire vous donner la nourriture spirituelle. Ensuite, il y a le don des prophéties. C'est un don de miraculeux. Pourquoi? Parce que c'est les porte-paroles de Dieu. Ils parlent à la place de Dieu. Ils transmettent sans erreur un message qui vient de Dieu. Ça, c'est la prophétie. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est un livre de prophétie. Ce que, moi personnellement, vous, je sais pas, mais ça devait être pareil, hein. Ce qui m'a amené au Seigneur en lisant la Bible, c'est justement à cause de toutes ces prophéties. Dans Apocalypse, le Seigneur, il nous dit, heureux, c'est lui qui croit à ses prophéties. Heureux celui qui écoute ses prophéties. Et ça, c'était un don pour quoi faire? Pour transmettre sans erreur. Hein, dans l'Ancien Testament, il a dit, si la chose ne se vérifie pas, c'est un faux. C'est un faux témoin. Ensuite, il y a les dons miraculeux. Hein, c'est les langues. Il faisait pas dans Actes 2, chapitre 1 et 4, hein, c'était, lorsqu'ils ont parlé en langue, pourquoi le Seigneur il leur a donné ce don? Parce qu'à Jérusalem, vous pouvez les lire toute cette histoire, sinon on y passera la soirée. Il se trouve dans Actes 2, 1, 4 et 8 à 11. C'est-à-dire que, à Jérusalem, pendant cette fête, c'était une grande fête, hein, tous les Juifs qui étaient éparpillés partout, ils devaient se réunir une fois par an à Jérusalem. Et alors, il y avait des gens qui venaient de tous les côtés, hein, qui avaient un langage différent. Et alors, c'est donc que Dieu il leur a donné, c'est de parler les langues. C'est pas des langues, comme ils disent nos frères charismatiques, des langues angéliques. N'est-ce pas? Mais c'est des langues que tout le monde a comprenait. Au verset 4, il nous a dit, comment ça se fait que nous les entendons parler de la gloire de Dieu? Ils sont en train de louer Dieu dans notre propre langue. Donc, c'était une langue parlée. C'est une langue compréhensible. Et qui n'avait jamais appris. Pourquoi c'est un don? Parce que le Seigneur, il leur a donné ce don. C'est un peu comme dans notre église. Quelqu'un qui ne parle pas français, il va parler comment? Ou en italien, ou en anglais, ou en ghanéen, je ne sais pas moi. Et s'il le fait dans notre église, qui c'est qui va comprendre? Personne. 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 Et ce don de langue, il l'a accordé à qui? Aux apôtres et aux disciples. Pourquoi? Pour que les gens ils puissent louer Dieu. Et c'est dit que louer Dieu dans une langue terrestre, pas une langue angélique comme nos frères charismatiques disent. Et vous savez, hein, ils appellent ça une langue angélique. Comment ils savent que c'est une langue angélique? Les anges, lorsqu'ils ont parlé, ils ont toujours parlé une langue compréhensible pour ceux qui l'écoutaient. Voilà pourquoi. Mais on va voir ces langues. Hein. Qu'est-ce que c'est que c'est parler en langue? Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir par la suite. Ensuite, un autre don miraculeux, c'est l'interprétation des langues. Voilà, là c'est pareil. C'est un don que Dieu il a donné pour que lorsqu'il y a quelqu'un qui parle, hein, dans une langue qu'on ne connaît pas, il y a quelqu'un qui interprète. Et comme il est dit, on va le voir dans les langues, hein, si il n'y a pas quelqu'un qui interprète, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Mais on va le voir par la suite, hein, parce qu'il y a des dons qui sont toujours là et il y a des dons qui se sont arrêtés. On va le voir plus loin. Hein. Ensuite, il y a le don des services. Les dons des services. Et c'est, qui dit service dit diaconat, les diacres. Ils étaient là pour servir. Vous en souvenez, les apôtres? Hein? Ils donnaient à manger aux gens qui étaient là, aux veuves, à ceux qui n'avaient pas les moyens, et ils ont dit, mais nous avons à prêcher la parole de Dieu, nous ne devons pas perdre le temps à donner à manger, à servir à table. Choisissons-nous des diacres, des gens qui vont les faire. Et c'est ça. Donc, les dons de service, c'est quoi? C'est servir, c'est les diacres. Tous les diacres qui sont dans notre église et dans le monde entier, dans toutes les églises, ils sont là pour servir. Ils sont pas là pour dire, ah, oh, moi je suis diacre. Non, t'es là pour servir. T'es là pour servir. Ensuite, il y a la capacité de donner. On l'a vu la semaine dernière dans le don de grâce. Hein? La capacité de donner. Des gens qui ne réfléchissent pas. Dieu, il leur donne le moyen. Et il le donne. C'est un don, ça aussi. C'est un don, là aussi. Et ensuite, on a vu encore une don de grâce, c'est l'exercice de la miséricorde. Être miséricordieux. Et c'est un commandement que le Seigneur, il nous donne constamment. Hein. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voilà pourquoi c'est très important ces choses qui... Il faut se souvenir que ces dons-là, comme je l'ai déjà dit, c'est le mot charis. Ça veut dire grâce. Si quelqu'un il a un don, ce n'est pas parce qu'il est beau ou parce qu'il a fait des grandes choses, mais c'est un don de Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous. Qu'est-ce que c'est qu'il souhaite Dieu avec ses dons? Au verset 11, chapitre 12, il nous est dit, à chacun en particulier, il donne un don comme il a voulu. Moi, c'est pas à moi de dire, Seigneur, donne-moi ces dons. Non, c'est Dieu qui le donne à chacun comme il veut. Comme il veut, il nous le dit, chapitre 12, verset 11. Hein? Et aussi, il répète au verset 18, comme il a voulu. Et dans Éphésiens 4, verset 11, il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, mais c'est Dieu qui l'a donné ça. Ça ne vient pas de nous. Même pour être pasteur, c'est pas dit, oui, je vais être pasteur, j'ai une bonne tchatch, ou une bonne parlée. Non, non. C'est un don de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Dieu appelle, et nous savons bien que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il donne les moyens pour pouvoir accomplir cette tâche. Et aussi, il faut remarquer que chaque chrétien a reçu au moins un don. Et c'est à chacun de nous de découvrir ses dons. Aussi, il peut y avoir des frères et sœurs qui vont me dire, mais Molita, tu as ses dons. Voilà. c'est chacun de nous, il a un don. En Corinthiens 12, 27, il dit, chacun pour sa part. Chacun, il a un don. Et en Pierre 5, 11, il nous le dit, puisque chacun a un don. Donc, chaque chrétien a reçu au moins un don. Je ne parle pas du don de salut, hein, parce que déjà, si tu es chrétien, si tu es sauvé, tous, ils vont recevoir un don. Ce n'est pas, encore une fois, le salut. Si tu n'es pas sauvé, tu n'auras pas de don. Hein, voilà. Hein. Les chrétiens n'auront jamais tous les mêmes dons. Si vous lisez un peu plus loin, chapitre 12, 8 jusqu'à la fin, il parle d'un corps. Donc, à chacun, Dieu, il donne un ministère, une façon de servir. Et nous est dit dans 1 Corinthiens 12, 8 et 10, il dit, à l'un, il est donné ses dons, à l'autre, il est donné ses dons, à l'un, ses dons, voilà. À chacun, mais jamais les mêmes dons. Et pourquoi? Parce que on est un corps. Au chapitre 12, verset 14, on est un corps formé de plusieurs membres, hein? De plusieurs membres. Pour que le corps il avance, il faut que tous les membres ils puissent utiliser, se mettre en mouvement. Et dans Romains 12, verset 4, il nous est dit. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Dieu, il a placé chacun à notre place. Et nous devons garder la place que Dieu nous a donnée, soit dans l'Église, soit dans le monde. L'homme ou la femme, Dieu, il a placé l'homme pour faire un certain service, et la femme, il a été placé pour accomplir un autre service. Mais les deux, ils se complètent. Les deux, ils se complètent. Romains 12, 6, il dit, nous avons des dons différents. Pourquoi encore une fois? Parce que le corps, il doit avancer tout entier. Il n'y a pas quelqu'un qui va plus loin qu'un autre. Même dans un mariage, lorsqu'on voit que la femme ou l'homme, il ne suit pas comme l'un ou l'autre, il faut l'attendre parce que on avance ensemble. Il faut être patient et aider la personne afin que on avance ensemble. C'est ça le corps. Et tout ça pourquoi? Parce que il nous l'a dit, l'objectif des dons. Pourquoi est-ce que don il a donné l'Église? 1 Corinthiens 12, 7, pour l'utilité commune. Commune, pas pour moi, mais pour mes frères et sœurs qui sont dans l'Église. Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints. L'édification du corps de Christ. Si nous avons un don, que c'est une grâce de Dieu, nous devons le mettre à la disposition de nos frères et sœurs. Pas pour nous, et pas nous élever, car encore une fois, ils ne sont que des dons. Et c'est ça que pour ça que Dieu nous a donné tous ces dons-là. Hein? C'est pour l'Église. Mais attention, c'est pas parce que j'ai un don, nous ne devons pas accomplir nos devoirs. Ces dons, ils sont pour nos frères et sœurs. Mais chacun de nous, même si on a ces dons, ça ne doit pas nous empêcher d'accomplir nos devoirs. Et quels sont leurs? C'est des responsabilités communes. C'est pas comme quelqu'un dit, ben voilà, un exemple un peu stupide, hein. Je suis pasteur et je vais pas nettoyer l'église. Voilà. Hein. C'est des trucs communs. C'est une responsabilité. Hein? Et c'est là une responsabilité particulière. J'ai un don, mais il y a cette responsabilité particulière que nous devons le mettre, encore une fois, au service de l'Église. Et il y a aussi le don de servir. Hein? Dans Galates 5, 13, il nous est dit de servir les uns les autres. Le Seigneur Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est exactement cela, c'est un devoir de chacun, à part les dons, de servir nos frères et sœurs. Il y a aussi les dons d'exhorter. Chacun de nous, il doit exhorter, pas seulement l'exhortation à l'extérieur, mais surtout les frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous devons, c'est une responsabilité commune. Il y a aussi le don, comme j'ai dit avant, de donner. Ce n'est pas seulement un don que le Seigneur nous donne, mais c'est une responsabilité commune à chacun de nous de donner. Des données, c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que l'Église, il se tient debout grâce aux dons des frères et sœurs. Tous, ils doivent donner. Chacun, il donne, par exemple, il gagne 1000, il donne 10 euros, il donne 40 euros, 50 euros. Mais celui qui gagne 1000, au lieu de donner 50 euros, il donne 100 euros, 150 euros. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un don. C'est un peu comme l'œuvre de missionnaire qu'on fait, hein. C'est-à-dire que je m'engage à donner une certaine somme par an en plus pour les missions. Et les gens, ils se disent, mais comment je vais arriver à le faire? Voilà, tu mets ça entre les mains de Dieu, et Dieu, si c'est pour sa volonté, il va te amener à accomplir ces choses-là. Et il y a aussi les dons de miséricorde. Nous devons être miséricordieux. Pas seulement ceux qui ont les dons, mais c'est une responsabilité de tous à être miséricordieux. Et il y a aussi évangéliser. Hein? C'est quelque chose que nous devons tous le faire. Pas seulement les évangélistes, pas seulement les pasteurs ou les diacres ou les conseils. C'est tous. C'est dire, le soir, lorsqu'on va se coucher, il a dit, et on peut se demander, est-ce que j'ai parlé du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que j'ai témoigné? Est-ce que j'ai évangélisé? Est-ce que j'ai prié pour quelqu'un? Voilà. C'est toutes ces choses-là. C'est des responsabilités que chaque chrétien a. Il doit avoir en plus du don, parce que c'est des responsabilités communes. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on dit tiens mais je vais arrêter. Non, c'est des responsabilités communes. Vous voyez comment ces dons ils ont été départis pour tous et encore une fois c'est pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, pour que le corps de Christ il puisse avancer. Et comment il peut avancer le corps de Christ? Mais c'est seulement si nous sommes tous unis. Vous savez, le contraire de l'unité, c'est quoi? C'est la division. Et lorsqu'il y a division, il y a quoi? C'est que il y en a quelques-uns qui vont à droite, et il y en a d'autres qui vont à gauche, donc ils n'arriveront pas à avancer le corps de Christ. Au contraire, ils vont les freiner. Voilà pourquoi le Seigneur il dit d'être un. Des fois, on prie l'unité de l'Église. On dit, Seigneur, unis-moi, unis-nous, Seigneur. Mais vous savez, nous sommes déjà unis. À la croix, Jésus-Christ nous a unis. Nous formons le corps de Jésus-Christ. Et c'est là que nous devons avancer avec ça. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions mettre ces choses-là en avant. Et aussi, la question des dons, c'est que il y a des dons qui se sont terminés. Ils se sont terminés. À l'exemple, le don d'apôtre. Est-ce qu'il y a encore des apôtres? Voilà, là c'est quelque chose que... Et pourtant, on entend beaucoup de gens, ils disent, je suis apôtre ici, je suis apôtre là. Le terme apôtre, vous devez savoir que ça signifie messager ou envoyé. Des fois, il s'applique à Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu. Hein? Il s'applique parfois à tous les chrétiens, parce qu'on est des envoyés. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Il s'applique parfois à ceux que l'Église, il envoie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se donner au Seigneur, qui veulent aller évangéliser dans un autre endroit. Alors à l'Église, il les envoie. Allez, on les bénit et on les envoie afin qu'ils puissent coopérer à l'avancement du salut. Il s'applique parfois aux collaborateurs. et vous, en lisant les épîtres de Paul, vous êtes bien aperçu qu'il y en a deux ou trois, Silas et d'autres, qui sont appelés apôtres. Pourquoi? Parce que ils sont des collaborateurs de l'apôtre lui-même, de Paul. Et Paul, surtout sur les 12 que Jésus-Christ, il a fermé ce mot-là, apôtre. Parce que pour être apôtre, il y a des critères. Il y a des critères. Hein? Les critères pour être apôtre, voilà ce qu'ils sont. Selon Actes 21-22, c'est le remplacement de Judas. Vous vous en souvenez, Judas qui l'a trahi. Donc, au lieu de 12, ils étaient 11. Donc, il fallait qu'il y ait 12 apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. C'est 12 apôtres que le Seigneur a choisis. Donc, les critères pour être apôtre, c'est là. Premièrement, un des critères, vous pouvez les lire chez vous pour voir, mais marquez ces choses-là. Hein. Selon Actes 1:21-22, il fallait avoir accompagné les autres apôtres tout le temps que Jésus a vécu parmi eux. Il fallait qu'il soit un témoin. Oui, il fallait qu'il soit un témoin. Et aussi, il fallait qu'il soit un témoin de la résurrection. Et selon 1 Corinthiens 9, 1, on l'a vu, hein, Paul, il se distingue parce qu'il dit, il disait, mais Paul, il n'a pas été appelé par le Seigneur. Mais Paul, il a vu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'est converti. Hein. Et selon 2 Corinthiens 12, 12, hein, dans le chapitre, l'apôtre, il s'est distingué par une patience à toute épreuve. Comme il est apôtre, appelé du Seigneur, il avait une patience terrible. Par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi je vous ai dit à un certain moment, ces dons, ils se sont terminés. Pourquoi? Parce que Paul, il ne l'accomplissait pas. D'ailleurs, à la mort du dernier apôtre, Jean, dans la Bible, on ne voit plus dans les actes des apôtres, on voit plus des gens qui font des miracles. Il n'y a que Dieu qui intervient, mais pas les hommes, mais pas les hommes. Alors on peut se dire, est-il possible aujourd'hui de trouver quelqu'un qui remplirait aujourd'hui ce critère? Non, ça n'existe pas. Hein? Éphésiens 2, 20, il nous a dit, les apôtres étaient là pour fonder, pour donner un fondement à l'Église. Acte 21, 14, montrer que leur gloire des apôtres, c'était seulement pour mettre les fondements de l'Église. C'est pour faire accepter le message que leur prêchait. Et dans Acte 5, 13, il a montré combien l'Église, il le mettait à part. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient mis à part par l'Église et ils pouvaient avancer comme ça. Voilà, la première chose qui est terminée, les apôtres. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. On peut utiliser apôtre par le mot qui ça veut dire messager, envoyé, mais apôtre comme le Seigneur, il a décidé, il les a choisis, il n'y en a plus. Lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vous dit « je suis l'apôtre tel » ou « le prophète tel », c'est discernement des esprits, c'est à rejeter. Voilà, que le Seigneur nous aide. On va continuer la semaine prochaine à voir les langues.